Institution de théologie à Rimont, le 31 octobre 1991. Troisième cours, 15h30. Père Marie-Alain, la révélation.
Il y a des questions? Alors, on continue. Je reprends le chapitre 3, le paragraphe 3 du premier chapitre. Dieu, qui crée et conserve toutes choses par le Verbe, offre aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Voulant encore ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se manifesta aussi lui-même, dès l'origine, à nos premiers parents. Déjà, la différence entre le témoignage dans la création et la manifestation à Adam et Ève. Le langage est précis. Il donne un témoignage dans la création et il se manifeste dès l'origine à nos premiers parents. Après la chute par la promesse d'un rachat, il les relève. C'est le début du salut. Il les relève dans l'espérance du salut. Il prit un soin constant du genre humain pour donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la fidélité dans le bien, recherchaient le salut. On était là, donc. Tout homme de bonne volonté qui est patient dans la recherche du bien accueille, reçoit la vie éternelle. À son heure, il appela Abraham. Abraham. Pour faire de lui un grand peuple. Et c'est le Genèse 12, c'est la vocation d'Abraham. Va, je ferai de toi une grande nation. Après les patriarches, c'est par Moïse et par les prophètes qu'il enseigna. Moïse, les prophètes, qu'il enseigna à ce peuple la connaissance de lui-même. Alors regardez, ça ici donc, après Abraham, c'est le peuple d'Israël. Ça c'est le peuple. Je dessine très mal, mais on dit qu'à partir d'ici, c'est le peuple d'Israël. Si on est attentif, qu'est-ce qu'il enseigne à ce peuple? La connaissance de Dieu lui-même, au fond, qu'est-ce qui est caractéristique du peuple d'Israël à l'égard de Dieu au milieu des autres nations? Écoute Israël, la suite. Le Seigneur est l'unique. Dieu unique. Bon, la connaissance du Dieu unique, connaissance seul Dieu, vous voyez, le seul Dieu vivant et vrai, et l'attente de sauveur, la promesse du sauveur. C'est le messianisme d'Israël. Le peuple d'Israël, au fond, est caractérisé par sa foi dans le seul Dieu unique et vrai. Provident, Père provident et juste juge, c'est-à-dire juste juge, c'est-à-dire celui qui récompense pour les bons et bonnes actions, et l'attente du Sauveur, donc la promesse du Sauveur. C'est ainsi qu'au cours du siècle, il prépara la voie à l'Évangile. Donc si on est attentif, le peuple d'Israël, il a une élection unique. Puisqu'au milieu de toutes les nations, Dieu a choisi un peuple. Alors, au fond, quelle est la vocation de ce peuple? Est-ce que ce choix de Dieu pour Israël est un choix qui
qui ennoblit Israël, un point c'est tout. C'est Israël qui est le fils aîné, c'est lui le bien-aimé. Les autres sont les autres nations. C'est-à-dire, celui-là, Israël, qu'est-ce qui est caractéristique d'Israël ? Le peuple privilégié. On nous le dit, n'est-ce pas ? C'est ainsi qu'au cours des siècles, il prépara la voie à l'Évangile. Au fond, la vocation d'Israël, c'est de préparer l'Évangile. Si vous êtes attentif, déjà, à partir des prophètes et tout ça, on le dit bien, hein, c'est pas qu'ils viendront... Il y a plein de textes, malheureusement, moi j'ai une mémoire minable, mais il y a beaucoup de textes qui annoncent, n'est-ce pas, que les nations rentreront et monteront vers Jérusalem. Donc, ce qui prouve bien que l'élection, déjà pour l'ancienne alliance, était une vocation, mais c'était pas... Israël n'était pas le seul peuple choisi pour être sauvé. La vocation d'Israël, c'est une vocation, c'est une mission, préparer la venue du Christ et l'Évangile. Donc, ce que je voudrais, c'est juste revenir un petit peu maintenant. On ne peut pas revenir avant le péché. Pas possible. Le péché est tombé. Donc l'homme est marqué. On est d'accord. Donc tout homme. Est-ce que aujourd'hui, il existe des hommes qui sont là? J'ai pris le temps. Qui sont dans cette loi, qui sont dans cette loi, qui sont des hommes marqués par le péché, comme tout homme, fils d'Adam, et qui ne connaissent pas Abraham, qui ne connaissent pas la révélation faite à Abraham. Donc des hommes qui peuvent être de bonne volonté, patients dans le bien, est-ce que ceux-là sont aussi riches du salut de Dieu que ceux d'avant Abraham? Vous comprenez ma question? Quand je trouve, par exemple, je sais pas moi, un petit pygmée qu'on ne connaît pas, qui ne connaît pas la religion chrétienne, parce qu'aujourd'hui il la connaît bien, mais comment est-ce qu'on pourrait dire une nation, un endroit qui n'est pas entendu parler de l'Évangile, qui n'est même pas entendu parler de la révélation de Dieu faite à Abraham ou au peuple d'Israël? Un homme qui ne connaît rien à la religion révélée. Quel est son sort par rapport au salut?
Il peut être sauvé parce qu'il ne connaît pas ce que c'est.
Pas sa faute. Je suis d'accord. Mais est-ce que, donc, il lui suffit d'être de bonne volonté? Qu'est-ce que vous dites? Bah oui. Non, parce que heureusement. Parce que, non, mais vous comprenez, ce qui est dans le devenir nous ouvre un peu sur le chemin que tous les hommes doivent faire. Mais donc, Dieu nous prend là où on est. La seule chose c'est qu'il nous demande, c'est de nous ouvrir au salut. Et pour ça, donc, d'écouter la voix ici de notre conscience. Un homme de bonne volonté, c'est celui qui agit selon sa conscience. Hein ? Bien qu'on pourrait avoir une conscience erronée. Mais s'il agit selon sa conscience, si vraiment il fait ce que sa conscience lui demande de faire, il est accueillant au don de Dieu de la vie éternelle. Dieu lui propose, ça prouve qu'il écoute la voix de sa conscience, il écoute la voix du Verbe de Dieu. Il écoute, il est docile à la révélation et au don de Dieu. Le peuple d'Israël, maintenant ça c'est le problème d'Israël. Le peuple d'Israël, il a été élu, choisi avec Abraham, Moïse, le don de Dieu, c'est la loi ici. Il a été choisi pour conduire au Christ, pour préparer l'Évangile. Alors aujourd'hui, puisque le Christ est là, qu'est-ce qu'il en est du peuple d'Israël ? Vous comprenez le salut d'Israël ? laissons tomber ce qu'on a dit, laissez-nous juste un peu. Comme ça. Le peuple d'Israël. Si vraiment il attend encore le Messie promis. Si dans sa foi il l'attend. Aveuglé. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas le Christ. Il l'attend. Il est donc ouvert. C'est pas sa responsabilité. Non ? Il accueille, il est ouvert. Il ne l'a pas reconnu. Mais il l'attend. Du moment qu'en vérité, il attend le Sauveur. Qu'en vérité, il attend un Sauveur. Non seulement il adore son Dieu unique, mais qu'en vérité, il attend le Sauveur promis, qui n'est pas lui-même. Ce n'est pas le peuple d'Israël, le Sauveur. Ce n'est pas un messianisme temporel. C'est un salut qui vient de Dieu. Donc il accueille la révélation que Dieu lui a faite et il a foi, mais il n'a pas reconnu son Sauveur. Non ? Ah oui. Non, ça ne passe pas ? Mais il n'a pas la foi. Il ne croit pas. Il ne croit pas que le Christ, c'est son Messie. Il est aveuglé. Pardon ? Non, il est aveuglé. Il est aveugle. Ah non, 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 non. Non, il y en a qui désirent un Messie terrestre. Il y en a.
À l'époque du Christ,
oui, mais, oui, c'est une interprétation de la loi, n'est-ce pas ? Il y a ça, il y a toujours ça. Il y en a ceux qui veulent le Messie terrestre, mais il y en a qui attendent le Messie. Ceux qui sont dans la foi d'Israël, ce sont ceux qui attendent le Dieu unique, qui adorent le Dieu unique, et qui attendent de lui le Sauveur promis. Mais c'est délicat. Parce que là, aujourd'hui, on ne voit pas. Nous, c'est notre frère aîné, on ne sait pas très bien. On ne comprend pas. Vous remarquerez que l'Église ne se mouille pas. Hein. On n'a pas dit, on ne dit rien. On dit juste, voilà, il a pris un soin constant. Dans le décret sur la liberté religieuse, il dit, et aussi sur l'œcuménisme, il dit que ces peuples qui accueillent la foi dans le Dieu unique, et le peuple d'Israël, entre autres, ils sont riches de la grâce de Dieu. Donc on voit le travail, la préparation de Dieu. Dieu prépare l'homme. D'abord en l'éduquant dans sa conscience. Puis avec Abraham, par la loi, en lui faisant connaître son péché. La loi n'est pas salvifique, elle ne sauve pas la loi. La loi montre qu'on a besoin d'être sauvé. Quand Saint Paul, c'est toute l'épître aux Romains, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, pour que celui qui tue, ment et vole comprenne qu'il est dans le péché. Donc la loi, elle montre le péché. Et donc, d'une certaine manière, elle condamne, si on veut. Mais elle ne condamnera pas s'il n'y avait pas eu l'annonce du Sauveur. Il n'y aurait pas eu don de la loi s'il n'y avait pas eu annonce du Sauveur. Donc, avec le don de la loi, est promis le Sauveur. Vous comprenez ? Il ne suffit pas de la condamnation, il y a aussi le salut. Dieu éduque l'homme pour lui faire comprendre qu'il y a en lui l'homme ancien, le pécheur, et qu'il doit être sauvé. Puisque chaque année, il devait offrir un sacrifice, l'agneau pascal. Hein, il y avait le sacrifice qui était offert par le grand prêtre tous les ans pour le peuple, qui montrait bien qu'il avait besoin d'être sauvé. C'est sûr que ce n'était pas l'agneau qui le sauvait. L'agneau était un sacrement L'agneau était un sacrement du mystère du Christ. C'est-à-dire qu'il annonçait le salut qui serait donné en Jésus. La différence entre les sacrements de l'ancienne alliance et les sacrements de la nouvelle alliance.
Il y a quelques figures, d'autres qui réalisent. L'ancienne alliance sont les préfigurations de ce qu'il a dit.
Oui, alors, est-ce que il donnait la grâce, ces sacrements ?
Non.
Ça ne servait à rien, alors, d'offrir l'agneau pascal ? C'était un geste purement liturgique. Une sorte de cinéma. On offrait l'agneau pascal comme ça, ça servait à rien. Alors qu'est-ce qui sauvait ? La foi. Le sacrement ne sauve. Si aujourd'hui, par exemple, l'Eucharistie. C'est le Christ, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que là, l'agneau pascal, c'était pas le Christ, c'était l'image du Christ. Il fallait croire que celui que signifiait l'agneau était le salut. Quand Dieu dit « tu offriras ce sacrifice », il invitait à faire un geste, mais un geste de foi, parce que tout le monde savait bien que c'était pas le sang de l'agneau qui sauvait du péché. Dieu seul peut sauver le péché. Donc, objectivement, il fallait croire qu'en obéissant au commandement de Dieu, au fond, j'adhérais au Christ, mais derrière un voile. Ils adhéraient, ceux qui offraient l'agneau pascal dans leur famille, au fond, dans leur foi, dans le sauveur que Dieu allait leur donner, ils se référaient à la Pâque, hein, au moment où Moïse, ils ont passé la mer Rouge. L'action de Dieu qui les a sauvés, c'était déjà l'action passée, mais qui annonçait une Pâque nouvelle, une action nouvelle qui allait leur faire entrer dans le royaume de Dieu. Il y avait donc, le sacrement était un signe dont la foi se servait. Mais ce qui sauvait, c'était la foi. Déjà, ici, dans l'Eucharistie, c'est la foi. Mais là, c'est la foi dans le Christ présent dans l'Eucharistie. Tandis que là, c'était dans la foi dans le Sauveur signifié dans l'agneau. Non ? Oui.
C'est quand même bien précisé que c'était des sacrifices en réparation.
Oui.
Donc, c'était quand même utilisé par Dieu pour racheter les péchés.
Oui, mais les sacrifices étaient incapables, comme dit l'Épître aux Hébreux, de racheter les péchés. En eux-mêmes, le sang des boucs, le sang des taureaux, n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Ils étaient des sacrements, c'est-à-dire des signes institués par Dieu, pas par les hommes, pour que, à travers eux, leur foi puisse adhérer au salut qui serait donné par Dieu. Vous voyez, ils rachetaient. Ils étaient capables d'offrir ces sacrifices pour le rachat de leurs péchés, dans la mesure où c'était dans la foi. C'est pas pour rien que les prophètes disaient, mais en vain vous offrez le sang des taureaux, en vain. Puisque vous croyez que c'est en multipliant les abattages que vous augmentez le salut. Non, c'est la foi. Oui.
C'est pareil pour les cierges.
Ben, c'est pareil pour les cierges. Mais c'est différent. Ouais. Et oui, mais l'exemple est bon. À la différence des sacrements de la nouvelle loi qui donnent la présence substantielle du Christ, les autres sont au fond des signes du cœur. Tout acte humain doit avoir son commencement dans l'attitude intérieure de l'âme. Là, ce qu'il était demandé, c'était l'adoration et la foi dans le Sauveur promis. L'adoration et la foi dans le Sauveur. Et s'ils croyaient, par exemple, que l'offrir le taureau sauvait, ça ne va pas. Parce qu'on sait bien que le taureau ne peut pas sauver. C'est, d'ailleurs, même pour l'agneau pascal, le peuple d'Israël le dira, il faudrait demander au Père Dreyfus, c'est un mémorial. Donc, on fait mémoire et on actue la Pâque aujourd'hui, vous voyez, La Pâque, la fête de Pâques, c'était l'actuation, en faisant mémoire, on actuait le salut, c'est-à-dire l'action de Dieu dans l'histoire, qui viendrait sauver. Donc, en appelant le Sauveur, il croyait, le peuple d'Israël croit, que Dieu va rentrer dans l'histoire pour les sauver. Donc, cette longue pédagogie de Dieu, dont nous ne pouvons pas faire l'économie, l'éducation normale, l'éducation chrétienne, suppose l'éducation à la conscience, l'éducation à la loi, et enfin l'ouverture à l'évangile. Mais tout ça à la lumière de la foi. Donc, oui.
Est-ce que tu peux préciser la différence entre l'éducation à la conscience et à la loi ?
Alors, le problème là, ce qui est un peu délicat, c'est que la loi, telle qu'on l'entend, les 10 commandements par exemple,
intéressant de voir si on les sait tous.
Sont tous des commandements qui correspondent au fond à la loi de nature. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire qu'au fond, un homme qui a une conscience un peu éveillée peut très bien dire qu'il faut adorer Dieu, peut très bien dire qu'il faut respecter ses parents. Il n'y a que le repos du sabbat, comme déjà un peu particulier, le sabbat. Tu respecteras le jour du Seigneur. Est-ce que dans la loi de nature, il fallait absolument réserver un jour à Dieu, une sorte de rythme? On peut en discuter. Mais tous les autres, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'utiliseras pas le bien d'autrui, enfin, tu ne commettras pas d'adultère. Tous ces commandements sont des commandements qui correspondent au fond à l'exigence naturelle. Qu'est-ce qu'il y a de propre à la loi ? Qu'est-ce qui est propre à la loi ?
Les deux premiers commandements, quand même.
Tu adoreras Dieu seul ? Oui, tu veux parler du Dieu unique ? Tu veux parler du Dieu unique ?
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et le reste de la loi ? Non, ne dis pas ça à l'Ancienne Alliance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, d'accord. Tous ces commandements se résument dans ces deux commandements. Tous les commandements se résument dans ces deux-là. Est-ce que ça ne correspond pas à quelque chose de nature, de respecter son frère comme on se respecte soi-même ? Est-ce qu'au niveau de la conscience, ce n'est pas normal, ça ?
Ça dépend de quelle civilisation, parce que ça dépend des coutumes aussi.
Oui, oui, parce qu'il y a d'autres lois, d'autres traditions. Mais au fond, la loi, mais c'est ça, je voudrais dire, la loi explicite des choses qui peuvent être découvertes par la recherche droite de l'homme, n'est-ce pas ? Elle l'explicite. Peut-être que l'homme n'arrivait pas. Alors c'est ce que dit saint Thomas, hein. Je m'appuyais sur un auteur solide. Il dit au fond que la corruption de l'homme est telle, parce qu'il y a eu du temps, hein. La corruption est telle qu'au fond l'homme ne sait plus. Il pense qu'il est normal de mentir de temps en temps pour la faim, tout ça. Nous aujourd'hui on s'est un peu calmé là-dessus, on sait que c'est quand même un mensonge, mais pas toujours. Le mondain, il sait mentir. Pourtant il y a un moment, tu ne mentiras pas. Eh bien, on a encore du paganisme en nous, mais ce que je veux dire, c'est que l'état des hommes était tellement marqué par le péché que même s'ils auraient pu découvrir avec la force de l'intelligence et de la droite raison, s'ils avaient pu découvrir la loi, il fallait quand même, comme une pédagogie, comme une aide de Dieu, c'est-à-dire comme un tuteur. Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi comme un tuteur. Si vous voulez, il éclaire un peuple qui a des coutumes qui sont devenues très enracinées, pour lui dire non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a aucune raison de voler. Par exemple, on voit les prophètes, ils parle à propos, par exemple, de celui qui est esclave et qui n'est pas israélite. Donc, il y avait une certaine interprétation qui disait, bon, cette loi ne concerne qu'à l'égard du peuple d'Israël. Donc, au fond, mon esclave, je peux en faire ce que j'en veux. Non, alors le peuple d'Israël lui dit, les prophètes lui disent, mon vieux, pas question. Celui qui est dans ta maison, celui que ton prochain, tu lui dois la même chose qu'à ton frère. Ça, vous voyez, cette éducation. Donc, la question, c'est de savoir quel est le rôle pédagogique de la loi, c'est ça, hein? Donc, éveiller à la droite conscience. Éveiller, éclairer la loi de la conscience. M'éclairer pour que je puisse accueillir pleinement la lumière de la conscience. Éduquer ma conscience. Je peux avoir une conscience erronée. Vous dites, à cause des traditions, c'est normal que celui qui m'a regardé de travers, je le tue. Non, ça existe. Eh bien, là on lui dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc on éduque. Ta conscience, il faut l'éclairer. Dieu dit pas, dans telle circonstance, vous pourrez mentir. Dans telle circonstance, c'est pas voler. Hein? Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Point. Vous voyez, et c'est donc un éveil pour une éducation de la conscience, mais qui est en même temps une lumière sur le péché. Donc elle nous montre notre état de pécheur, elle éclaire notre elle nous éclaire sur notre culpabilité. Parce que quand on me dit tu ne mentiras pas, et l'écriture, grâce à Dieu, dit que le juste pêche 7 fois. Alors, je ne me trompe pas en disant qu'ici, que nous, la loi de Dieu, hein, on résiste, hein, on résiste. Donc, on a besoin d'être éclairé pour éduquer et en même temps qu'on nous montre où est le péché pour que je puisse me convertir, mais aussi que je puisse être sauvé. C'est-à-dire que j'attends le salut. Ça ne répond pas. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'au fond, il y a tout homme de bonne volonté qui s'ouvre à la lumière de la création, de sa conscience, de sa foi juive. Cet homme-là, il accueille le salut que Dieu lui promet. Il est ouvert au don du salut. Il y a un passage dans le Concile, surtout dans Lumen Gentium, où on dit que même l'athée, même celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu, mais qui cherche la vérité, n'est-ce pas ? C'est un signe, c'est qu'il cherche, c'est pas le refus de Dieu, c'est pas un athéisme négatif, c'est une... Il est aveugle, il ne voit pas, il ne croit pas. Pour lui, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, si on lui prouvait que Dieu existait, il croirait. Bien, même l'athée, ça n'est pas sans la grâce qu'il progresse. Il a la grâce. Du moment que ce n'est pas un refus. Vous voyez ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je ne veux pas de Dieu parce que si Dieu existe, alors il me condamnera parce que ma vie est mauvaise. Alors ça, c'est mauvais. Parce que je refuse la lumière parce que j'ai peur qu'elle me juge. Tandis que le croyant, c'est celui qui se laisse juger parce qu'il accueille le pardon de Dieu. Ça ne gêne pas que Dieu me dise « Tu as péché » parce qu'en même temps, il me donne mon sauveur. Mais si moi, je ne veux pas d'un sauveur, je refuserai que Dieu me dise « Tu as péché ». Vous comprenez ? C'est pour ça que la foi, au fond, elle se juge sur le salut. Le jour où je refuse d'être sauvé par un autre que par moi-même, déjà, je me coupe au salut de Dieu. Et si moi, je considère, non, c'est ma vie de justice. Je suis un moine parfait. Stylite, vous savez ? Personne ne peut rien me reprocher. Je suis sûr du salut. Parce qu'au fond, je ne fais rien de mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Impossible. Il y a le péché et l'orgueil qui est là et qui fait son beurre. C'est ça l'horreur. Notre grâce à nous, c'est d'être des sauvés, c'est pas d'être des sans péché. On est des rachetés, on n'est pas sans péché. Et c'est pour ça que on juge la foi au sauveur. Du moment que j'attends le salut d'un autre. Vous savez, ça vient très tôt. L'enfant qui veut marcher tout seul, non, il ne veut pas être aidé. Ça, il faut lutter contre ça. Mais c'est le premier non. On veut se débrouiller tout seul. C'est bon qu'il se débrouille tout seul, quand même. Mais il faut faire attention. Et eh bien, quand dans la vie, quelqu'un apparemment ne croit pas, mais qui vous demande de l'aider, qui cherche, qui s'appuie sur un autre, qui écoute, sont autant de signes qu'il attend un sauveur. Si c'est quelqu'un qui, au contraire, se coupe de tout, qui n'attend rien de personne, ça, c'est plus délicat. Il faudra qu'il y ait un miracle. Il faut qu'il tombe de son cheval. On peut avancer ? J'ai peur de ne pas tenir mon contrat. Sinon. Alors, après avoir... Je suis au numéro 4. Donc. Alors maintenant, c'est la plénitude. On nous l'a dit, c'est ainsi qu'au cours des siècles, il prépara la voie à l'Évangile. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Ça, c'est texto l'Épître aux Hébreux. Il a en effet envoyé son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes, pour qu'il demeura parmi eux et leur fit connaître les secrets de Dieu. Pour qu'il demeura parmi eux, donc c'est habita vite, hein, pour qu'il demeura. C'est bien le sens. Hein. Oui, tout habite, arrête, c'est bien ça. Parce qu'il est venu habiter, il est venu planter sa tente parmi les hommes et leur fit connaître les secrets de Dieu. Donc, unité de la révélation, n'est-ce pas ? Entre l'ancienne alliance et la nouvelle, puisque c'est le même mouvement, après avoir à bien des reprises et de bien des manières, c'est donc discontinu. Il y a des reprises, c'est discontinu. Parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Alors ça, c'est l'élément, c'est le moment, c'est l'événement de la révélation. Il a en effet envoyé son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes, pour qu'il demeura parmi eux et leur fit connaître le secret de Dieu. Donc vous voyez, continuité de la révélation, et pourtant, discontinuité, c'est quelque chose de tout nouveau. Il a parlé par des prophètes, mais là, il a parlé en son Fils. Et de sorte que c'est plus en passant, à un moment où on dit « la parole de Dieu fut adressée au prophète un tel ». Ça veut dire qu'il n'était pas toujours sous le don de prophétie. Il y a un moment où il a reçu et il a pu parler au nom de Dieu. C'était discontinu. Tandis que dans le Christ, l'alliance est éternelle. C'est donc, il y a une discontinuité, il y a quelque chose de nouveau. C'est dans la continuité de l'ancienne alliance, mais c'est nouveau. Jésus-Christ, donc, le Verbe fait chair, le Verbe fait chair. Donc Dieu, homme. L'homme envoyé aux hommes prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre du salut que le Père lui a donné à faire. C'est drôle qu'il ait dit achève. Achève l'œuvre du salut. Comment vous comprenez ça? On ne dit pas qu'il fait, on dit qu'il achève. Comment? Il y a un grand manque. C'est extrait, moi je suis le texte, n'est-ce pas? Mais il y a un grand manque. Parce que quel est... Là, on a vu, c'est la réponse de la conscience. Mais on n'a pas parlé de la participation au fond de la foi. N'est-ce pas? La dimension au fond où la grâce fait germer en l'homme déjà son œuvre. Tandis que là, Jésus achève la porte à la perfection. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas, dans Saint Jean. L'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que le Christ n'avait pas été glorifié. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit n'avait pas été donné dans l'Ancienne Alliance? Pardon?
Il a été donné.
Ah bon? Il a été donné. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit? Il parlait de l'Esprit qui n'avait pas encore été. Ça prouve qu'il y avait une plénitude de ce don qui n'avait pas été encore donné. Et donc, pour que le salut puisse prendre tout, il fallait attendre le Christ. Donc, Jésus, c'est le Verbe fait chair. Je ne crois pas qu'on apprenne quelque chose de nouveau, mais c'est bon de se le rappeler. C'est Dieu fait chair. C'est le langage de Saint Jean. L'homme, homme envoyé aux hommes. Donc, c'est Dieu qui se fait homme pour être pleinement auprès des hommes. Mais tout de suite envoyé, donc il y a une mission. Prononce les paroles de Dieu. C'est le seul, comme on l'a dit ce matin, dont la parole dit le Verbe, est adéquate. Il prononce les paroles de Dieu. C'est Dieu qui parle en lui. Et achève l'œuvre du salut que le Père lui a donné de faire. Donc, le grand mystère du Verbe fait chair. C'est donc lui. Le voir, c'est voir le Père, qui, par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par ses paroles, par ses œuvres, par ses signes, par ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, donne à la révélation son dernier achèvement, et la confirme encore en attestant divinement que Dieu est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Donc là on montre comment le Christ révèle. Comment a-t-il révélé? Par sa présence, premièrement, par sa présence. Par la manifestation qu'il fait de lui-même. Quand il a témoigné de lui-même, quand il a rendu témoignage, mon Père rend témoignage, par ses paroles, donc par son enseignement, par ses œuvres. Vous voyez qu'il y a un ordre, ce n'est pas les paroles d'abord, c'est la présence, la manifestation de lui-même, c'est lui-même, ce qu'il est lui-même, ses paroles, ses œuvres, ses signes, les miracles. Non, ses signes, ses miracles, il y a des signes et des miracles. Exemple. La multiplication des pains, c'est un miracle. Et c'est un signe. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des miracles qui ne sont pas des signes et des signes qui ne sont pas des miracles? Apparemment, on distingue. c'est l'œuvre. Parce que c'est le signe. C'est aussi un signe, au sens qu'il est élevé, tu veux dire.
Il ne sera pas donné d'autres signes.
Oui, il est élevé. C'est ça, le signe. Donc, les miracles sont des signes. Mais il y a des signes qui ne sont pas des miracles. La croix. Donnez-moi un autre signe. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui ne sont pas des miracles? La transfiguration.
Le baptême.
La transfiguration, je dirais plutôt, ouais, bon, enfin, mettons. On ne va pas jouer, hein, ce n'est pas notre but. Mais c'est essayer de comprendre qu'il y a des miracles. Tous les miracles sont signes. Mais il y a des signes qui ne sont pas des miracles. La croix n'est pas un miracle.
Le pardon des péchés.
La résurrection, quoi ?
Le pardon des péchés.
Le pardon des péchés, est-ce que c'est un miracle ?
Non.
C'est son œuvre, c'est l'œuvre propre du Christ. Son œuvre. C'est signe de sa divinité. Mais le pardon des péchés, on ne peut pas dire que ce soit très visible. Pour qu'un signe soit signe, il faut qu'il soit visible.
C'est les pharisiens qui font ce reproche.
Oui. Comment en fait-il que cet homme dit qu'il pardonne le péché alors que c'est qu'à Dieu? Mais il ne dit pas que c'est un signe, il dit, tu dis que tu pardonnes le péché, mais tu ne pardonnes pas. S'il pouvait le voir, ça serait un signe. Le propre du signe, c'est d'être manifeste, sinon ce n'est pas un signe. Il faut qu'il soit visible.
La résurrection,
le troisième jour. Dans le sens où il est apparu, il est apparu. Il a manifesté, il est apparu. C'est les signes de sa résurrection. Je ne peux pas dire que sa résurrection soit un signe. Personne n'est témoin de sa résurrection. Mais il est apparu. Et du coup, on croit à sa résurrection. Donc, on continue. Par ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts. Par l'envoi enfin de l'esprit de vérité. Et tous les dons, toute l'action du Christ, toutes ses œuvres, donnent à la révélation son dernier achèvement. On comprend du coup comment on doit lire l'Écriture pour découvrir en Jésus la révélation que Dieu nous fait du salut. Nous faire comprendre, vous voyez, quand nous lisons l'Évangile, nous servir des actes, des paroles de Jésus pour découvrir la révélation que Dieu nous fait. Vous voyez ? La révélation que Dieu nous fait de lui-même et du salut qu'il donne aux hommes. Se servir de tout ce qui nous est donné pour aller au cœur de la révélation, ce qu'on a dit, c'est que Dieu veut nous admettre à partager sa propre vie. Tout est pour ça. Donne à la révélation son dernier achèvement et la confirme. Donc, ce qui existait avant prend d'un seul coup une valeur et comme scellé en attestant divinement que Dieu est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Donc, voilà ce qui est le témoignage, l'attestation de Jésus. Le témoignage, c'est ce que Jésus est venu annoncer, c'est qu'il nous arrachait du péché et nous ressuscite pour la vie éternelle. C'est-à-dire, nous invite à communier à la vie de Dieu. Donc, les deux points qui sont importants, hein, les deux aspects de Jésus, il confirme, il achève la révélation et la confirme, et nous arrache aux ténèbres du péché et de la mort. On peut continuer ? Non ? Oui ?
Je ne comprends pas en fait ce qu'il y a plus dans la révélation après le Christ et du temps d'Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève étaient appelés à être fils de Dieu.
Oui.
Et nous aussi. Et on a l'impression que tout ce qui s'est passé entre, finalement, c'est parce qu'il y a eu le péché qui nous a embêtés. Et finalement, c'est exactement la même chose, l'appel d'Adam et Ève et le nôtre après le Christ.
Et alors, ça vous dérange ? Alors, faisons attention. Adam et Ève, ils étaient appelés à être des fils, par vocation, ils étaient appelés. Et on dit d'ailleurs, qu'il devait pour ça manger à l'arbre de vie. C'est une attentive. Il fallait donc qu'il reçoive cette vie, qu'il la reçoive comme un don de Dieu. L'arbre de vie, c'est une façon de définir le Christ. Bon, alors on reprend ça. Qu'il se donne cette étape.
Session de théologie à Rimont, le 31 octobre 1991. Quatrième cours, 16h30, Père Marie-Alain, la révélation.
La question grave. Ça marche, c'est tout. La question est celle-ci, au fond. Adam et Ève n'ont rien eu de plus que nous après Christ, quoi. C'est ça, hein? Nous, on a plus qu'Adam et Ève. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça la question. Donc, au fond, Adam et Ève, il leur était donné la vie. C'était une vie qui venait du Fils, mais pas du Christ. Après le péché, le don du Fils devait être à la croix, parce qu'il devait être associé à un don du salut. C'est le mystère de la croix qui est rédemptrice. Donc, la même grâce qui était donnée purement gratuitement, on les recevait comme des enfants, ils étaient fils, par don de Dieu. Ils avaient juste à accueillir le don de Dieu. Qui les faisait fils, cette même grâce, nous, dans le Christ, nous fait pas seulement des fils, mais nous fait des amis, parce qu'elle nous associe à la croix de Jésus. Donc, c'est pour ça que l'Église dit le jour de Pâques, c'est la même grâce, c'est la même filiation, on est fils de Dieu ou on ne l'est pas, mais c'est une grâce chrétienne, en ce sens, par le Christ, nous l'entendons, quand nous l'entendons chrétienne, nous voulons dire par le Christ à la croix, n'est-ce pas ? À ce moment-là, cette grâce nous associe. Et l'Église n'est pas simplement le peuple de ceux qui reçoivent le don de la vie, c'est aussi le peuple de ceux qui sont choisis pour communiquer la vie. L'Église, elle n'a pas, c'est pas simplement
La fille, c'est aussi l'amie, c'est l'épouse, elle fait la même œuvre que le Christ. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans la grâce après le Christ, si vous voulez, à la différence de la grâce de justice originelle d'Adam, c'est que c'est une grâce qui nous associe et nous fait travailler nous-mêmes à notre propre salut. Donc, si vous voulez, on n'est pas simplement des rachetés, mais on est appelé à coopérer. C'est le mystère du mérite. À participer à notre propre salut, à nous aussi écraser la tête du dragon. On pourrait comme ça, mais c'est la même grâce. Les anges, est-ce qu'ils sont fils de Dieu? Question à 100 balles. Ne vous trompez pas, sinon vous serez. C'est fini, hein. Votre ange gardien vous laisse tomber. L'ange est une créature de Dieu, comme nous. Mais cette créature a le droit à un bonheur de nature. Est-ce qu'il est appelé au bonheur de grâce? Aïe, 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 aïe. J'espère qu'ils ne nous entendent pas. Les anges sont fils de Dieu. Mais oui. Les anges sont fils de Dieu. Pourquoi vous croyez qu'il y en a des damnés? Parce qu'ils ont refusé le don de la grâce. Il y en a qui ont préféré la justice de nature, parce qu'elle est en leur possession, plutôt que d'accueillir le bonheur que Dieu leur promettait par grâce. Il faut reconnaître, n'est-ce pas? Si vous êtes le super intelligent, le plus grand, le premier, ça, et qu'on vous dit, écoute, c'est beau ce bonheur-là, mais moi je te propose un autre que je te donne, qui est tout autre. Mais celui-là, tu le recevras, et que l'autre, il est dans la force de ta puissance. Alors vous direz, non, il faut faire être autonome, hein, l'orgueil. Au contraire, non, j'accepte, parce que ce qui compte, c'est participer au bonheur de Dieu. C'est beaucoup plus que ce que je pourrais avoir avec mes forces, même si je suis le premier. Donc le péché des anges, au moment de leur création, les anges ont été mis devant ce choix d'un bonheur de grâce, plutôt que d'un bonheur de nature. Ils ont été mis dans la foi pendant un instant divin, un petit instant divin, difficile à expliquer. Ça a été ponctuel, hein, l'ange, il ne prend pas le temps. Hein. C'est oui ou non, c'est définitif. Et ce choix l'a rivé, il l'a fait refuser le don de Dieu, ou l'a fait accepter le don de Dieu. Donc les anges, les saints anges, nos anges gardiens, ils sont fils de Dieu. Ce sont les fils aînés. Mais ils n'ont pas une grâce chrétienne. Ils ont mérité cette grâce. Parce qu'il a fallu qu'ils choisissent. Ils ont choisi ce don, de vivre du don de Dieu. Et comme ils ont mérité cette grâce, ils vivent en fils. Mais cette grâce n'est pas chrétienne. À la différence de nous, qui est une grâce qui vient du Christ et nous associe au Christ et nous fait communier au Christ. Mais c'est le même mystère, oui.
Je voulais savoir s'ils sont fils adoptifs comme nous.
Mais à la différence, s'ils n'étaient pas fils adoptifs, ils seraient quoi? Fils par nature? Est-ce que c'est possible d'être fils par nature?
Il n'y a que Jésus.
Voilà. Donc vous avez répondu. Ils ne peuvent être que fils adoptifs. N'est-ce pas? Ils ne peuvent qu'accueillir la vie. Comme...
Ils n'ont pas connu le péché comme nous.
Non, ils n'ont pas connu le péché.
C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Oui. Alors, écoutez, il y a deux choses. C'est pour ça que c'est important de distinguer. La vocation et le péché, c'est différent. Alors mettons que le bonheur naturel serait... Qu'est-ce que c'est que le bonheur naturel? Aristote, il dit qu'il y a il y a deux choses qui finalisent la vie de l'homme. Qui peut, pour un philosophe, qui est la fin de l'homme. C'est quoi ? L'amitié et la contemplation. Donc, le bonheur naturel, c'est-à-dire un bonheur qui est aux prises à ma nature d'homme, c'est l'amitié et la contemplation. Si je m'attache au bien terrestre, l'argent, le plaisir, je n'atteindrai pas l'amitié ni la contemplation. D'accord ? Ça sera ma faute, je n'atteindrai pas le bonheur. Je ne parlerai pas de péché, mais je parlerai, c'est ma faute, c'est de ma part. Si j'étais un homme, s'il n'y avait pas le péché, hein, si j'étais un homme, je pourrais atteindre le bonheur, mais ce bonheur, il serait, c'est pas quand même gratuit, la contemplation, il y a quand même un labeur, et l'amitié, c'est pareil. Par conséquent, il faut quand même que je m'oriente à ça. Mais si je ne m'y oriente pas, je dirais c'est de ma faute. Je n'ai pas atteint mon bonheur. Mais c'est de ma faute. Bon. La grâce nous ouvre à la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? C'est la communion avec Dieu. C'est une communion surnaturelle qui dépasse de beaucoup le bonheur naturel, qui n'a rien à voir, qui est tout autre, qui ne nie pas ce bonheur-là, parce qu'on reste des hommes, mais qui est comme quelque chose d'autre. Il y a des êtres qui, parce qu'ils sont nés manchots, pourront jamais, les gens ne leur permettront jamais d'avoir une amitié réelle, parce qu'on ne ferait pas avec des gens comme ça. Ces hommes qui seront blessés, qui ne pourront pas atteindre leur fin par nature, pourront quand même accueillir le don de grâce de la vie éternelle. Non ? Vous comprenez ça ? Il y a comme une double finalité dans l'homme. Sa finalité selon sa nature et une finalité de grâce qui est de vivre en fils de Dieu ici-bas, de façon cachée, dans la foi, et au ciel, dans la gloire. Mais ça sera... Je serai un homme au ciel, n'est-ce pas ? Mais je serai surtout un enfant de Dieu. Mon bonheur ne sera pas tellement ça. Ça ne niera pas ça. Mais mon bonheur viendra de ma communion avec Dieu et de la communion que Dieu me donnera avec tous les autres. Donc, c'est un bonheur de grâce. Ça, c'est un bonheur de nature. Ce qui est dans ma nature et dans mes forces, ce qui est dans la grâce, est gratuit. Non ? Tu l'es, là ? Donc, une chose, quand Dieu m'a créé homme, il m'a donné la fin adaptée à ma nature. Seulement, il m'a créé homme pour me donner un bonheur par grâce. Vous voyez, il y a une discontinuité. Dieu nous crée des hommes pour nous inviter à être des fils par grâce. Il nous donne une nature humaine pour nous inviter à être des fils par grâce. C'est d'un autre ordre. C'est par grâce. Nous sommes appelés à être en communion avec Dieu. Normalement, la créature n'est pas en communion avec Dieu. La créature reste créature. Mais nous avons dit qu'il veut nous faire partager sa vie. Ça peut pas être, je peux pas le mériter au sens propre du terme. Je peux pas travailler pour vivre la vie de Dieu. Je peux pas. La vie de Dieu est par grâce. C'est gratuit. C'est un don. Alors la question est de dire, où est le péché là ? Les anges, Dieu leur a simplement demandé d'accepter le don par grâce. D'accepter de eux qui avaient le droit à une vie qui est quand même pas mal, la vie d'ange. La nature angélique, c'est pas mal, la vie des anges. En se regardant, il connaissait Dieu. En se regardant. Il connaissait tout en se regardant. C'est moi ? C'est moi ? Je suis le centre de tout, puisque en me regardant, je connais toutes choses. Il faut lire le traité de saint Thomas sur les anges. Comprendre s'il y a un petit peu d'orgueil, on n'a pas tellement envie de changer. Parce qu'au lieu de se regarder, non, il faut recevoir par gratuité. Ça fait comprendre ce qu'est le péché. Hein, parce que le péché, le premier péché de l'ange, c'est celui qui nous fait tomber. Après, il ne faut pas croire qu'il a l'imagination. Hein. Il nous fait tomber comme ça. Il veut que nous vivions seuls. Il nous isole. Il veut que nous nous sauvions tout seuls. Alors, l'ange a été appelé. On lui a proposé, écoute, choisis. N'est-ce pas ? Et son choix a été d'accueillir le don. Voilà les saints anges. Ils ont accueilli. Mais Dieu avait créé la nature angélique. Non pas pour qu'ils vivent comme des anges purs, mais pour qu'ils soient des fils. C'est pour ça que les anges qui ont refusé d'être des fils, ils ont déchu, ils sont tombés du ciel, ils ont déchu. De même l'homme, il est créé homme avec nature, mais il est créé en vue d'une fin surnaturelle. Vous voyez, c'est ça qui est difficile à lier. L'homme est créé homme pour une fin divine. Qui n'est pas adapté à sa nature. Ce qui fait que celui qui refuse le don de la grâce, non seulement il perd la vie éternelle, mais il perd ce qui est donné à la nature. Vous comprenez ça ? Autre chose donc, ce que le péché me coupe, et autre chose, ce que l'acte me fait accepter, c'est autre chose. Le salut de la croix qui rachète le pécheur, et c'est autre chose. L'épreuve angélique qui lui a permis d'accueillir le don. Non ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas ? Est-ce que ça répond ou est-ce que ça ne répond pas ? C'est important de comprendre que c'est un autre ordre, la grâce, la croix, n'est-ce pas ? L'homme. Ça, on tourne un peu à côté, mais peut-être c'est utile. L'œuvre du péché, au fond. Comprendre l'œuvre du péché. Qu'est-ce que fait le péché ? Qu'est-ce que c'est que le péché ? À Dieu qui donne sa grâce, l'homme dit non. J'en veux pas. La lumière est claire, je ferme le volet. Je ne veux pas être dérangé. C'est-à-dire, je veux vivre sur ma lumière. Je ne veux pas de la sienne. Ça, c'est ça. Donc, Dieu donne, propose sa grâce. Et l'homme arrête. Comme l'homme est fait pour toute nature qu'il est, il est fait pour une fin surnaturelle. S'il se prive de la grâce, le péché... Donc, le péché arrête, n'est-ce pas ? L'arrêt, le refus. Le péché le blesse. Puisqu'il le coupe de la grâce, il perd la grâce. La grâce, le don de Dieu, est coupé par le péché. Si l'homme est fait pour la grâce, il est fait pour accueillir la grâce. S'il la refuse, il est blessé. Hein ? Ce qu'on appellera la peine du sens. Je m'expliquerai après. Mais le péché, le fait qu'il refuse le don de Dieu, c'est une offense à Dieu. Vous êtes d'accord ? Si Dieu, qui est tout amour, vous propose par gratuité quelque chose qui est comme un don d'amour, et vous dites non, c'est une offense. Cette offense, elle touche Dieu dans sa dimension infinie. Cette offense, elle est infinie. Si vraiment je refuse le don de Dieu, c'est une offense infinie. Oui.
Est-ce que dire qu'il y a une différence entre, si je veux dire, les péchés quotidiens ou,
oui, bien sûr, bien sûr.
Et le refus du don de la vie éternelle.
Donc là, c'est pour ça que je parle du péché. Là, ce péché, il est mortel. Hein. C'est d'accord. Il entraîne à la mort, celui-là. Parce que c'est un refus lucide, clair, net. Tandis que dans notre vie, il y a d'autres péchés. Par exemple, je vole la tablette de chocolat. Et la gourmandise, c'est un bien évident. Tout de suite, je la vole, je la mange rapidement. Et puis, à ce coup, je me dis, tiens, j'aurais pas dû. Ben, il y en a pour qui se disent plus tôt, puis il y en a qui se disent plus tard. Je veux dire, quand j'ai mangé le chocolat, j'ai pas eu l'intention de refuser le commandement de Dieu qui me demandait de pas voler. J'ai simplement eu l'intention de manger ce chocolat. Mais derrière cet acte de gourmandise, il y a quand même un désordre. Ce désordre, il m'engage sur un chemin de désobéissance. Et que ce chemin, si je ne l'arrête pas, un jour me conduira à un refus réel. Alors c'est pour ça que l'Église a toujours distingué les péchés véniels des péchés mortels. Le péché véniel, c'est donc celui qui me met... Je ne peux pas dire que je refuse Dieu. Saint Augustin définit comme ça le péché, hein, il dit aversus, une aversion de l'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu. Hein. Au fond, le chocolat, c'est pour moi. Pour le moment, ce n'est pas encore par haine de Dieu. Non ? Mais qui voit la neuf, voit la deux. Non ? Alors, on est mis sur une pente qui un jour me fera choisir de façon lucide. Et là, je ne sais pas si j'aurai encore la force de choisir. C'est comme problème du vice, oui.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas véritablement de péché mortel, puisque l'homme n'aura jamais la pleine connaissance de Dieu et de son amour avant la rencontre face à face?
Ben, le malheur, c'est que Saint Jean, dans sa première lettre, dit: il y a un péché pour lequel je ne vous demande pas de prier. Parce que quand tu dis qu'on n'a pas la pleine conscience, ce qu'il faut voir, c'est pas la conscience, ce qu'il faut voir, c'est l'orgueil, c'est-à-dire le refus qui est derrière. L'orgueil, si tu veux, il est aussi puissant devant une petite chose que devant une grande. C'est toujours l'orgueil. Le problème, c'est qu'un péché d'orgueil, il coupe un petit faisceau de lumière comme il couperait le grand, mais avec la même facilité. Tu vois ? Et c'est ça qu'on ne peut pas dire. L'homme, le péché mortel existe. Le péché mortel existe, mais c'est clair. C'est pas au début, c'est petit à petit qu'il devient mortel. Enfin, l'Église ne rentre pas trop dans le détail. Hein. Elle dira des péchés graves et des péchés véniels. Voilà, elle parlera comme ça. Elle ne parlera plus de péché mortel aujourd'hui. Mais on dira qu'il y a des péchés graves qui nous coupent de la grâce. Qui nous coupent de la grâce. Il y a un moment où, au fond, je ne veux plus être pardonné. Je ne veux plus être pardonné. Quelque part. C'est pas pour ça qu'un jour je ne me rattraperai pas. Mais là, je ne veux pas. Ça, c'est un refus. Bon, alors parlons théologiquement, si vous voulez. Abstraitement. En considérant qu'il y a un refus de la grâce. Ce refus blesse l'homme et atteint Dieu. D'accord ? Qu'est-ce que fait le Christ ? Le Christ répare l'offense faite à Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut réparer cette offense. Alors Dieu peut dire, écoutez, c'est ça, je balaye, je vous pardonne, j'ignore votre offense. Ou Dieu peut, dans le mystère du Christ, permettre à l'homme, d'offrir à Dieu un sacrifice qui répare son offense. La croix n'était pas nécessaire selon le plan de Dieu. Il aurait pu avoir un autre plan en disant, bon écoutez, c'est simple, les hommes m'ont offensé, allez, je les rachète gratuitement. C'est-à-dire que je balaye tout. C'est-à-dire que nous, pécheurs, nous serions rachetés comme des esclaves par un maître très riche qui nous aurait rachetés et qui, au fond, aurait payé pour nous la dette. Vous voyez, nous aurait acheté purement gratuitement. Mais nous, on serait des êtres nous n'aurions rien fait. Nous aurions tout subi. Tandis que Dieu a eu dans son plan le rachat, mais par le salut, c'est-à-dire par le mérite du Christ, qui a réparé l'offense. Donc, en vérité, dans le Christ, le péché est réparé. L'offense faite à Dieu est réparée. C'est pas simplement Dieu qui pardonne. On dit qu'il pardonne dans le Christ. Ça veut dire que c'est Jésus qui répare en nous l'offense faite à Dieu. Non, vous voyez. Donc ce qui est le propre du Christ, c'est pas qu'il nous ait racheté. Dieu aurait pu nous racheter d'une autre manière. Mais il nous a racheté par la croix, c'est-à-dire en offrant un sacrifice qui répare l'offense, qui rend à Dieu, qui répare. Il y a un homme qui s'est opposé à lui, et bien lui, il a pris le péché et il a offert un sacrifice qui répare l'offense. N'est-ce pas ? Et nous, dans le Christ, nous réparons l'offense. C'est ça la grandeur du chrétien. C'est que l'Église, par exemple, quand elle offre le sacrifice eucharistique, l'Église offre un sacrifice qui répare, qui est satisfactoire, qui répare, qui contribue, qui paye la dette, n'est-ce pas ? Qui paye la dette. C'est une manière de parler. Non seulement la dette du péché est clouée sur le bois, comme on dirait, c'est-à-dire je ne suis plus accusé, mais en plus, de mon péché, je peux réparer. Dans le Christ. Bon. Cette blessure-là. Oui. Vous comprenez ce que c'est que cette blessure? Si vous buvez trop de vin, un jour vous aurez le nez comme ça. Il y a c'est ce qui est dans le désordre de la nature, un jour se marque. Et il y a un désordre qui touche la nature. Ça la blesse. Le péché nous blesse. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais il nous blesse. Puisqu'il nous blesse, il faut que je sois soigné. J'ai besoin d'être guéri, d'être soigné. Parce que s'il ne me soigne pas, c'est comme quelqu'un qui a une blessure, il perd son sang et au bout du chemin, il va tomber d'une admission. Hein. Si je suis blessé, il y a quelque chose en moi qui m'affaiblit. Je n'ai pas les mêmes ressources, je n'ai pas les mêmes résistances. On est tous pécheurs. Mais si je ne vis pas de la pénitence, parce que seule la pénitence guérit. Quand je dis la pénitence, je parle la vraie pénitence et je parle du sacrement de pénitence. Donc la peine du sang, c'est cette maladie, elle a besoin d'être soignée. Pour être soignée, si je ne le fais pas, je suis un être plus faible, débile. Dieu peut me donner sa grâce, c'est comme s'il le donnait à un pot percé, ça s'en va, j'en profite pas, je reste débile, j'arrive pas à vraiment prier, je n'arrive pas à vraiment aimer mon frère. J'ai l'impression que je m'use, je m'épuise, parce qu'au fond, le pot est percé. Dieu donne sa grâce, mais ça s'en va de tous les côtés. Donc, il faut réparer. Et c'est pour ça que l'Église appelle à la pénitence. La pénitence, une image. Quand vous vous baissez beaucoup, toujours baissé, vous n'arrivez pas à vous redresser. Vous êtes complètement tordu. Vous restez tordu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous torde dans l'autre sens. Pour vous redresser. La pénitence, au fond, c'est ça. C'est faire la démarche contraire au péché. C'est faire la démarche contraire. Le péché, c'est l'amour de moi, jusqu'à la haine de Dieu. La pénitence, c'est l'amour de Dieu, jusqu'au mépris moi-même. Donc, c'est essayer d'œuvrer, n'est-ce pas, pour redresser. Puis, comme on est faible, il y a souvent, on est tellement malade, qu'on ne peut même pas se tordre de l'autre côté. Alors il y a le sacrement de la pénitence qui nous est donné pour nous guérir. Pour nous guérir des blessures de nos fautes. Donc la question, je suis un peu...
Tu dis que seul le sacrement de pénitence guérit. Mais est-ce que
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la pénitence guérit. La pénitence. Et le sacrement de pénitence par excellence.
Est-ce que l'Eucharistie...
L'Eucharistie comme sacrement... Quoi ?
Ne guérit pas.
Oui, l'Eucharistie, c'est selon la tradition d'Église, hein, l'Eucharistie guérit. guéri. Mais guéri pour les fautes légères, guéri. Donc, la tradition de l'Église a toujours maintenu ça, que la communion eucharistique a un rôle de guérison. On ne peut pas approcher le Christ sans être soigné. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber le sacrement de la pénitence ? Ça, c'est une interprétation. Mais je ne suis pas. Non. Bon. Mais donc, ce qu'on disait au fond, c'est que la croix, vous voyez, l'œuvre de la croix, c'est pas le don de la grâce, c'est la réparation de l'offense. C'est ça. Et le don de la grâce s'annonce, qui guérit. La croix guérit. Hein, c'est ce qu'on dit. Elle nous guérit. Il y a deux grâces. La grâce sanctifiante qui nous fait fils et la grâce s'annonce qui nous guérit, qui nous donne, qui nous permet d'être nous-mêmes, qui nous permet de vivre pleinement en homme. Tandis que là, on est blessé, on ne peut pas vivre. Donc, vous voyez le rôle de la croix. Non ? C'est important parce qu'au fond, c'est ça la révélation. Hein. La révélation, c'est le mystère. Vous voyez, la révélation, c'est Jésus. C'est-à-dire Dieu fait homme. C'est-à-dire que la vie de Dieu a été partagée par un homme. L'homme a vécu, un homme, Jésus, a vécu la vie de Dieu. Restant un homme, il a vécu la vie de Dieu. Donc, la révélation me promet aux hommes la vie éternelle. Un homme l'a eu, donc si Jésus le dit, que c'est pour tous les hommes, alors j'ai en lui la certitude que c'est possible, que les hommes sont appelés à la vie divine. Mais l'œuvre du Christ, en plus de cette révélation du dessein de Dieu, ça a été le salut. Le Christ n'a pas fait que révéler. Il a aussi sauvé. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on disait. Vous avez remarqué les deux points. Déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu, on avait écrit ça, est sauveur. N'est-ce pas ? C'était uni. Je crois très important d'unir les deux. La révélation, c'est que nous sommes appelés à être des fils. Mais c'est aussi que nous avons besoin d'être sauvés. Eh bien, le sauveur, c'est Jésus. Déjà, la grâce de Jésus atteint les hommes de bonne volonté, atteint les hommes. Déjà, la grâce de Jésus atteint l'homme. Vous êtes d'accord ? Dans l'Ancienne Alliance, quand ils offraient l'agneau pascal, c'était l'image du Christ. C'est déjà leur foi au Christ, c'est déjà la grâce du Christ. Donc, si Adam a été sauvé, c'est par qui ? Par le Christ. Hein ? Il n'y en a qu'un qui peut sauver, c'est le Christ. Ça passe ou ça casse ? Ça passe. Oui ? Alors, je reprends, n'est-ce pas ? C'est donc lui. Le voir, c'est voir le Père, qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par ses paroles, par ses œuvres, par ses signes, par ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, donne à la révélation son dernier achèvement et la confirme en attestant divinement que Dieu est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Donc, deux choses. Il donne à la révélation son achèvement et il atteste, il rend témoignage que Dieu est avec nous dorénavant pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Jésus nous atteste, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et nous atteste la présence de Dieu pour nous arracher au péché et à la mort et nous conduire à la vie. Donc, non seulement il confirme la révélation que l'homme est fait pour vivre la vie de Dieu, mais en plus, il nous atteste, il atteste divinement, hein, ce n'est pas un témoignage humain, il rend témoignage en nous-mêmes
il rend témoignage en nous-mêmes que Dieu est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort. L'économie chrétienne. Alors au fond, pourquoi il y a quelque chose après le Christ ? Qu'est-ce que l'Église va encore nous apporter ? Hein ? Au fond, tout s'arrête au Christ, oui.
Rien.
Rien.
Elle nous aide.
Hein. Dans quel sens ?
De comprendre ce qui est.
Voilà. Donc, au fond, lisons d'abord. Pour pas dire de bêtises. L'économie chrétienne, du fait qu'elle est l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais. Il n'y en aura plus d'autre. C'est fini. L'alliance est faite, c'est éternel. Et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Fini. N'attendez plus rien. Tout est là. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait l'Église qui enseigne, qui condamne aussi, qui... Qu'est-ce que vous diriez ? Alors, il nous dit qu'elle aide. Quel est le rôle de l'Église ?
Compassion, évangélisation.
Mais quand elle condamne, par exemple, quand elle dit, par exemple, quand elle condamne l'avortement, quand elle demande que on croie à l'Immaculée Conception, quand elle demande qu'on croie à l'infaillibilité du Saint-Père, est-ce que ça relève de la révélation ? Vous voyez, c'est pas si simple. Hein. Ça relève de la révélation. C'est une explicitation du donné révélé. Vous recevrez l'Esprit Saint et il vous conduira à la vérité tout entière. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas la vérité tout entière. D'ailleurs, il le dit dans Saint Jean. Il dit, il vous donnera de mon bien. C'est-à-dire, il vous fera connaître ce que j'ai apporté, mais c'est l'Esprit qui vous le révélera. Maintenant, vous ne pouvez pas le porter. Donc, il y a encore un devenir, n'est-ce pas ? Il y a encore des choses. Vous voyez, alors, j'ai coupé mon truc, mais... Hein, le Christ et l'Église, il y a encore un devenir. Jusqu'à la parousie finale. Hein, jusqu'à le plérôme, la plénitude du Christ. Qu'on aura découvert la plénitude du Christ. Non pas que le Christ n'a pas été tout entier donné, il a été tout entier donné. Mais ce qu'il a apporté n'a pas été pleinement explicité, n'avait été pleinement accueilli. N'est-ce pas ? Parce que l'homme n'était pas capable. Vous voyez, exactement ici, comme le chêne est dans le gland, il est tout entier, le chêne dans le gland. Et pourtant, le chêne n'est pas le gland. Non. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une explicitation. Tout est donné dans le Christ. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au Christ. Mais tout n'est pas explicité au temps du Christ. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité tout entière. C'est pour ça que l'Église, avant de définir un dogme, généralement, le montre comment il est présent dans l'Écriture, de façon voilée, de façon cachée, mais il est présent. Et le fait que l'Église le définisse, ça nous permet de rentrer dans la pleine intelligence de l'enseignement du Christ. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important de dire. Donc, autre chose, le progrès de la révélation jusqu'au Christ, n'est-ce pas ? Autre chose, la transmission, le développement, l'actualisation de cette révélation, n'est-ce pas ? Qui doit prendre tout. Donc, c'est bien la révélation qui est actualisée, qui est développée. C'est toujours elle.
C'est le mystère de l'évangile, c'est le mystère du Christ. Mais il y a un développement qui l'explicite pleinement. C'est pour ça que ce que dit, ça ne contredit rien. L'économie chrétienne, du fait qu'elle est l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais, et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, les paroles de la Vierge Marie en Yougoslavie n'ajoutent rien à l'évangile, mais explicite, c'est curieux, l'appel à la conversion. C'est vraiment intéressant. Ce qui est le premier mot de l'évangile. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Ça prouve qu'on n'est pas loin de la fin. Parce que le début, c'est loin de la fin. Mais c'est toujours l'évangile, n'est-ce pas? Oui? On peut avancer? Un point essentiel, c'est numéro 5. C'était implicite dans tous les autres précédents. Donc, Dieu révèle, c'est une chose, mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est le numéro 5, accueil de la révélation par la foi. À Dieu qui révèle est dû, il y a une dette, n'est-ce pas? Le latin est plus sobre. Ah oui, est dû. Au Dieu révélant est demandé l'obéissance de la foi. Si Dieu vous parle, c'est que vous l'écoutiez. Donc, non seulement vous l'écoutiez, mais que vous preniez au sérieux la parole que Dieu vous adresse, et donc que vous obéissiez. Donc, au Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi. Par laquelle? Alors, qu'est-ce que la foi? L'homme s'abandonne, il y a un don de lui-même, s'abandonne tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle. Donc quand vous croyez, vous faites hommage à Dieu de votre intelligence, librement, vous êtes libre de ne pas croire. C'est un hommage libre, c'est un acte libre de croire, par lequel vous vous abandonnez tout entier et librement dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle, et dans un assentiment. Il ne suffit pas d'écouter, il faut encore assentir. Il faut, comment est-ce qu'on peut dire ça, il faut être d'accord, quoi. Il faut l'assentiment volontaire à la révélation qui est faite. Il faut dire oui. Vous dites non, je crois, je marche. Non, il faut rentrer dans l'ordre de sagesse. Il y a un assentiment. C'est pas croire comme ça. Non, il faut un assentiment. Il faut dire oui, un assentiment volontaire à la révélation qui est faite. Oui, il faut la choisir. Quand vous dites que Dieu est amour, vous avez l'impression que vraiment il ne vous aime pas, eh bien, je crois qu'il m'aime. Et pour faire ça, je suis obligé de nier pas mal des concepts que j'ai, moi, de Dieu, et de son regard sur moi-même. Hein? Je remets mon jugement. Mais non seulement je remets mon jugement, mais il y a un assentiment, il y a un mot qui me manque là. Oui, il faut que j'acquiesce ou une adhésion, voilà. Il faut que j'adhère. Et donc, il faut que je de tout mon être, j'adhère à cette parole que Dieu m'aime. Et donc, il ne suffit pas de dire oui, je sais qu'il m'aime. Non, il faut que j'adhère. Et donc, que je vive à cette lumière, que vraiment cette foi m'éclaire. C'est une parole qui m'est donnée, alors par choix, c'est volontaire, je décide qu'elle va éclairer ma vie. Voilà, le croyant, c'est pas la foi morte, hein, c'est la foi vivante, hein, qui non seulement fait hommage de son intelligence, de son jugement, de sa manière de voir à Dieu, à qui mérite d'être écouté. Dieu est Dieu. N'est-ce pas? Je l'accueille, je l'écoute, Mais non seulement je l'écoute, mais en même temps, j'adhère. Et donc, cette lumière, je m'en sers pour vivre. Elle éclaire ma vie. Il oui. Suffit pas de dire, je crois. Montre-moi ta foi sans les œuvres, vous dira Saint Jacques. Moi, c'est par les œuvres que je montrerai la foi. C'est par ce que je fais, c'est dans mon agir. La foi, elle a besoin d'éclairer l'agir. S'il n'éclaire pas l'agir, c'est qu'elle est morte. N'est-ce pas ? La foi doit nécessairement changer le vivre, changer ma manière d'être. Sinon, il n'y a pas l'assentiment volontaire à la révélation. Si Dieu parle, c'est pour changer ma vie. S'il me dit quelque chose, c'est que moi j'ai besoin de l'entendre et que sans lui, je ne sais pas où je vais aller, mais je sais que ça ne va pas être beau. Donc j'ai besoin d'écouter et donc de changer ma vie à cette lumière. S'il me parle, s'il me fait connaître quelque chose, c'est qu'en plus il me donne, il m'appelle à changer. Donc il faut cet assentiment. Je me permets une liberté. Pour exister, cette foi requiert la grâce prévenante et aidante de Dieu. Donc la foi, ça n'est qu'au fond la réponse au don de Dieu. La grâce est première. Dieu donne la grâce. La foi, c'est la réponse à la grâce. Donc vous voyez, en même temps que la révélation, il y a le don de la grâce. En même temps que Dieu nous enseigne, il nous donne la grâce pour accueillir son enseignement. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous accueillons cette grâce et nous nous en servons pour pouvoir nous abandonner tout entier et adhérer. Pour exister, cette foi requiert la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit, pour toucher le cœur et le tourner vers Dieu, pour ouvrir les yeux de l'Esprit et donner à tous la vérité. Afin de rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit-Saint ne cesse de parfaire la foi par ses dons. Donc la foi, c'est un fruit de la grâce, mais c'est en même temps quelque chose qui grandit. Au début, elle est faible, puis un jour, elle est très forte. C'est comme la grain de moutarde, qui au début, quelques racines, petite plante, et après, un arbre. Donc voici. Bon, je